Techno is Our Life donne un espèce d'énorme rendez-vous. C'est les 7, 8, 9 février au Dièse. Quand on lit, on voit qu'on va rentrer dans des temples de Tikal. On peut même partir un peu au Machu Picchu. Il y a là une plongée dans les civilisations des Andes et de la Mésoamérique. Où veux-tu nous amener, en fait, Tom, avec ce gros festival qui arrive et qui va nous bouger pour début février?
Alors, l'idée de Techno is Our Life, c'est de proposer donc à la fois une vaste diversité musicale, mais aussi d'amener les gens dans un univers, on va dire, qui leur fait oublier le moment présent, donc en investissant dans une scénographie. Sur les précédentes éditions, on va dire qu'on n'avait pas trop mis ça en avant. On avait simplement mis un petit peu de déco comme ça, par-ci, par-là. Mais là, l'idée, en fait, c'est de réhabiller le Dièse en temple maya et inca. Donc, dès l'entrée, il va y avoir du papier craft sur les murs pour donner l'effet d'une grotte. La salle 1, qui est le temple en lui-même, et la salle 2, qui est le sanctuaire, donc un petit peu plus gaupe, un petit peu plus morbide.
Et, carrément morbide.
Ouais. Et okay. Le tout accompagné avec des prestations sur échasses, des écrans LED, des lasers.
Ouais, tu mets le paquet.
Voilà.
Là, vraiment, on sent qu'il y a il y a les gros moyens qui sont mis sur ce festival pour nous enjailler tout le week-end.
C'est
même ça.
Ça
commence.
C'est 30 artistes.
30 artistes, ouais, un petit peu plus avec les DJ Contest, mais c'est ça. Et ouais, l'idée, c'est de proposer, plutôt qu'une simple soirée ou un simple festival, c'est vraiment une expérience qui est à la fois visuelle et sonore.
Oui, c'est immersif.
Voilà, c'est vraiment l'idée.
Et ce qui est dingue, c'est que donc, pour le public, donc, il va y avoir une expérience toute nouvelle, mais même pour les artistes que tu invites, il y a une expérience aussi, parce que tu leur mets défis, de très jolis défis, justement, avec nos guests que nous avons ce soir.
Le but, c'est de faire des choses et de proposer des choses qui ne sont pas anodines, pas rester sur des bases déjà construites et tout ça, et de mettre les artistes un petit peu en difficulté. Parfois, c'est un petit peu rigolo.
C'est des challenges, en fait.
Mais
explique-nous un peu comment ça t'est venu l'idée de réunir donc les trois Canic, artistes qu'on a ici dans le
soir. L'un ou les autres, ils ont déjà tous joué pour Techno is Our Life. Et là, donc moi, à la base des bases, j'avais une autre idée de projet qui n'a pas pu se faire. Mais en y réfléchissant et en parlant aussi avec les managers, cette idée est venue. Et les trois ayant, on va dire, un univers quand même qui est assez semblable sur certains points, mais avec l'autre partie qui est totalement différente, la fusion entre ces trois univers, ça peut amener à quelque chose justement d'assez éclectique. Et c'est ce qui est recherché au sein de Techno is Our Life.
Oui, et puis en plus, c'est ce qui est recherché, c'est un peu le côté nouveauté, découverte, parce que c'est novateur. Vous n'avez jamais mixé ensemble en live. Et là, vous allez proposer donc Scanix, Voltaire, Paul Nasca, vous allez nous faire un live complètement exclusif. Vous y travaillez justement en ce moment même. Comment ça se passe? Comment on arrive à trois cerveaux et à six mains à chacun trouver sa place, mettre sa patte? Paul?
Non, allez. Le point de départ, c'est chacun de son côté, quoi.
Vous connaissez quand même à la base.
Oui, tout à fait. On se connaît. On n'a jamais fait avec Stéphane, on a eu un projet, mais on va dire avec Jules Voltaire, on a tous les trois, on n'a jamais bossé ensemble. En fait, on est parti du principe où chacun de son côté, dans son studio, allait travailler des nouvelles boucles. Parce que ce live va être vraiment exclusif à 100%, du début à la fin. Il n'y a aucun track qui a été déjà travaillé ou qui a été sorti, commercialisé, pas du tout. C'est des boucles qui ont été créées en studio, chacun de notre côté. Et par la suite, on s'est dit, on va synchroniser nos configurations live. Ensemble, et là c'est justement le cas puisque depuis hier on répète le live de
et puis même en proposer une toute nouvelle, ne serait-ce qu'en réel avec le public. Il y a toute une disposition et installation de matériel qui est totalement novatrice par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire.
Oui, tout à fait. De toute façon,
le fait d'être à trois, c'est sûr que
il faut réfléchir sur d'autres configurations au niveau matériel, tout ça. Après, chacun est libre. Moi, c'est vrai que j'ai voulu rajouter deux trois petites machines
Étonnant, très étonnant venant de ta part.
Oui, c'est clair. Mais Paul, vas-y, parle-nous des machines et des mécanes. Vas-y, dis-nous.
Non, ben disons que je suis obligé quand même de me limiter parce que sinon je pars très vite en folie.
Parce voilà. qu'il faut quand même préciser, Paul, il faut préciser quand même aux auditeurs qui peut-être, ça m'étonnerait, mais bon, peut-être que certains ne te connaissent pas, mais t'es quand même un amoureux des synthés et des machines. T'es quelqu'un qui collectionne, t'es quelqu'un qui aime l'instrument, en fait.
Ah oui, le toucher, le contact avec la machine, c'est pour moi la base. Et c'est vrai que même sur une petite configuration, là, comme j'ai monté, il me faut mes petites machines pour avoir un toucher. Voilà, ça, c'est vraiment ma touche. Et puis...
Oui, c'est ta patte.
Ma patte et j'en ai vraiment besoin, quoi. Quitte à des fois, est-ce que ça peut créer des complications, enfin, entre guillemets, parce que voilà, il y a du midi, il y a plus de câblage, plus de risques, mais bon, ça va, c'est.
Oui, j'imagine qu'il y a plus de midi que de USB.
Il y a de l'USB, il y a du midi, il y a de l'audio, il y a un peu de tout, il y a de la synchro.
Ah oui.
Ça, il y a de la synchro. Mais justement, c'est intéressant parce que voilà, on a raccordé nos trois configurations et c'est à nous de les synchroniser justement. Et par la suite, on appelle ça un filage, c'est-à-dire regrouper nos morceaux et se mettre d'accord sur le début, le milieu, la fin du live. L'enchaînement quoi, de tous les tracks.
Alors, je veux bien parler 30 secondes avec Stéphane. Ouais. Comment tu abordes un live à trois? Parce qu'on connaît ton parcours, là aussi, tu as quand même l'habitude du live, t'as beaucoup tourné. Comment tu te retrouves dans une expérience comme ça, avec Voltaire, Jules, avec Paul? C'est quoi la direction que tu as envie?
Bah, disons déjà techniquement, c'est vrai que moi j'ai vu d'autres expériences en live à deux, en fait. Donc, quand on fait un live à deux, on peut très bien partir sur l'idée, en fait, comme un DJ, c'est-à-dire qu'on passe d'un disque A à un disque B, et voilà. Mais à trois, en fait, on est vraiment obligé de penser à un autre schéma. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un espèce de ping-pong où on passe de l'un à l'autre. Donc, c'est vrai qu'on a travaillé sur de la matière chacun de notre côté. Et c'est vrai que lorsqu'on s'est retrouvé à nouveau pour commencer à répéter, bah, c'était un peu l'inconnu. Donc
c'est la page blanche en fait.
Voilà, bon, on avait mis un espèce de disque dur virtuel où on envoyait tout ce qu'on faisait de notre côté, mais en fait on n'a jamais l'assurance que ça fonctionne tant qu'on n'a pas essayé sur le moment même. Et là, comme c'est vraiment du live machine, c'est-à-dire que c'est pas trois DJ qui jouent des disques. On n'a pas la sécurité de se dire tiens, si à un moment donné ça marche pas, on passe à autre chose. Donc on est vraiment obligé d'essayer et c'est vrai que ça s'est plutôt pas mal passé, c'est-à-dire ça a été assez fluide. Bon, c'est vrai que Paul a fait, ouais, enfin on est comme des gens qui avons l'habitude aussi de tourner et je pense que
parce que c'est ça, vous faites du live les trois aussi.
Ouais.
Vous êtes habitués au live aussi tous les trois.
Ouais. Donc voilà. Après, il n'y a pas eu de plus que ça de se dire trop à l'avance comment on va faire. On travaille sur des boucles. On se retrouve et on voit comment ça se passe, quoi. Voilà.
Ok. Il y a une sorte de ressenti instantané. Si vous sentez que que ça groove, que le morceau est bon, allez, vous y allez et vous partez dans la direction.
Voilà. Après, on a déjà fait plusieurs filages, donc on voit les choses qui fonctionnent entre elles et comment on peut passer de l'un à l'autre. Voilà.
Alors,
mais c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit pas trop écrit et qu'on ait une
liberté. Que ça soit spontané, voilà. Bien sûr.
Après, c'est vrai que sur une première, on a toujours envie de travailler le plus possible pour être prêt, on va dire, le plus possible. Mais c'est bien de garder aussi la magie du moment qui celle-là, on peut pas la répéter, celle-là.
Oui, et elle est nécessaire, en plus, pour le live.
Et pour le public.
Et pour le public.
Le fait de bosser des boucles et de se limiter, en fait, parce que des fois, on a tendance à faire évoluer, on crée un arrangement, on crée un morceau et c'est terminé. Là, en fait, une fois que, pour ma part, une fois que la boucle a été terminée, je me suis dit, il y a le groove, ça tourne, je me suis arrêté, en fait, justement pour pas m'imprégner d'un schéma ou un squelette, on va dire, au
niveau pour laisser vivre en fait le, voilà, la créa.
Bon, la boucle elle est là et je vais pas imaginer plus. Ça se fera justement le jour où on ben là, c'est ce qui est le cas, on se voit. Et en fait, c'est là où l'arrangement, le pré-arrangement va se faire en live. Il sera à chaque fois différent. Moi, je pense que c'est ça, c'est bien de laisser de la marge,
la spontanéité, exactement. Donc, Voltaire, ça fait quoi de se retrouver avec, avec Paul et avec Stéphane comme ça sur un setup? Bon, tu les connais bien sûr, hein, je pense que ça fait partie des gens que tu aimes musicalement, mais bon, ça doit être un peu impressionnant, non, quand même?
Musicalement et pas que, mais c'est vrai que c'est un véritable challenge déjà de concevoir un live à trois, mais ce qui m'a rassuré, c'est aussi qu'on a tous les trois une vraie affinité avec le live.
Oui.
Et aussi. Un respect de la musique, c'est-à-dire qu'on va pas surcharger les morceaux, il y aura toujours une place dans nos boucles pour que quelqu'un puisse introduire et puis évoluer ensemble, sans que quelqu'un essaye de marcher sur l'autre.
C'est ce que j'allais te poser, la question, tu peux répondre bien sûr, mais les deux autres aussi, vous pouvez répondre. Il y a quand même une histoire d'ego qui se joue, non? Quand on joue, est-ce que j'en fais plus, est-ce que j'en fais pas plus? Est-ce que je laisse la place à l'autre? Est-ce que je bouffe pas l'autre? C'est des questions que vous posez ou vous y allez et spontanément ça se fait?
Non, je pense que c'est assez spontané. Enfin, de mon côté, oui, mais c'est surtout qu'on se connaît déjà humainement.
Ben voilà.
Et
ça, c'est un gros plus, peut-être.
Et on a des vrais attraits musicaux. Comme disait Tom, on a une musique qui n'est pas si distincte, pas si différente. Donc, on sait comment chacun fonctionne, plus ou moins.
Et non, puis en plus, ce qu'on peut rappeler, c'est que quand les gens vont être dans la salle, quand ils vont nous voir jouer tous les trois, on ne sait pas à quel moment qui fait quoi.
Et oui.
Donc, on va dire, cette notion d'ego, elle est que derrière. Elle est, et comme l'expliquait Paul, en fait, dans tout ce qu'on a travaillé en amont, on était obligé de laisser de la place aux deux autres. Sinon, trois personnes qui jouent en même temps, c'est le bordel, en fait.
Eh oui, c'est la cacophonie
rapide. Donc, il fallait trouver le bon équilibre entre le fait de s'affirmer et, effectivement, ne pas trop finir les morceaux pour laisser de la place aux autres.
Alors, Stéphane, tout à l'heure, on parlait du titre que tu as proposé, que c'était chirurgical, mais c'est un peu ce qui se passe avec vous, là. Trois boucles qui arrivent en même temps, il faut les amener, il faut quand même... C'est de la bijouterie, non, quand même, qu'on fait, là, de l'orfèvrerie.
Bah, surtout, en fait, sur les transitions. C'est là où... En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu comme dans un mix. C'est-à-dire que quand le disque tourne tout seul, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où on veut amener un autre disque et le mixer, que là, on est obligé, évidemment, d'avoir de la technique, de l'équalisation, etc., pour que les choses... Et dans le choix aussi, de la matière sonore.
Et que ça soit fluide.
Voilà.
C'est une très, très bonne idée que vous avez eue, là, de vous retrouver tous les trois, parce qu'on vous connaît tous. Je pense que les auditeurs vous connaissent et franchement ça va, je pense, être très très intéressant à écouter. Bonne idée, Tom.
C'est une idée assez incroyable, et même je me demande, est-ce que il y aura un après après live Techno Is Our Life de votre côté?
Tout est ouvert, on est ouvert, bien sûr. Après, là, c'est la première, donc on se projette pas là. Pour nous, c'est voilà, on travaille, on y va étape par étape. Et je pense que c'est mieux de réfléchir comme ça. Et on verra sur scène le 8 février. Voilà comment ça va se passer. Bon, ça va très bien se passer, mais c'est important, la première, en fait. Donc, on ne peut pas non plus dire, voilà, on va faire si ça. Ça va peut-être... ça peut être aussi des compositions qu'on va terminer, chacun de notre côté, qu'on va sortir. Ou alors, c'est des boucles qu'on va garder dans ce live. Il y a plein de possibilités, en fait. Mais pour l'instant, voilà, là, on est en train d'arranger ce live tous les trois, de bien le faire tourner. On va faire cette première date et après, on verra, quoi. Mais c'est vrai que, en parlant de... Il n'y a pas d'ego, en fait. Je ressens pas du tout...
Quand j'ai posé la question, j'ai fait exprès, parce que je vous connais un peu tous les trois, je vous ai déjà vu en interview, je sais que l'ego il est très très loin derrière, c'est la musique qui est importante pour vous trois. Hein.
Mais exactement, donc, quand on fait tourner, on pense à la musique de l'autre, en fait, on essaye de bien s'intégrer, bien intégrer la personne qui est à côté de soi et de respecter, en fait. Et je pense que quand ça part comme ça, et on l'a vu, on a fait la sélection, ça s'est fait très rapidement, en fait. On s'est mis d'accord, on a écouté, on a partagé. Il n'y a pas un qui a imposé ou qui a dit « Non, on s'écoute, on partage et on valide. » Et c'est vrai que ça s'est fait, et ça se fait naturellement.
Et c'est ce qu'on va certainement sentir aussi dans votre musique, ce partage-là.
Oui.
Ah ben oui, de toute façon, c'est le but. Hein. De toute façon, la musique, voilà...
Puis je trouve
c'est,
ça,
c'est du partage.
Je trouve ça assez beau parce que vous venez tous du sud de la France. C'est un live quand même 100% sud de la France. Toi, Paul, donc, tu es originaire plus du côté d'Arles. On a Voltaire, toi, c'est plus pied du Mont Ventoux. Scanix, région de Montpellier.
Si moi, je vis dans le Luberon, ouais, à côté de Lourmarin. Ouais.
Ah, et maintenant, ouais. Luberon? Mais t'es originaire...
Alors, je suis parisien, à la base.
Oh, t'es parisien. Oh, mais mon Dieu, que... qu'est-ce que je viens de dire?
Voilà. Non, mais alors...
On ne coupe pas, on garde.
Et ça, on le garde, évidemment, bien sûr.
En fait, t'as pas tout à fait tort. C'est-à-dire que quand j'ai signé sur Snake Music à l'époque, donc en 93, donc l'avant F Communication, à l'époque, on était cinq. Il y avait quoi? Il y avait Saint-Germain, il y avait Garnier, il y avait... Donc, quand je suis arrivé sur ce label, en fait, j'habitais sur la Côte d'Azur. Je faisais des études audiovisuelles, voilà, tu t'en... Donc, ça, tu sais...
Donc, c'est loin de Montpellier, quand même.
Et comme tous les artistes sur Fnac étaient parisiens, Eric Morand, qui était le label manager à l'époque, a dit, bah, allez, sur les bio, on va mettre le niçois, etc.
Ah, d'accord.
Il m'a dit, je m'en fiche, c'est pas un... Voilà.
D'accord. Mais,
voilà, donc
c'est pas vrai, du tout Montpellier.
Et comme
pardon.
J'ai beaucoup joué dans le sud, c'est vrai que on peut penser que j'ai quasiment tout le temps habité dans le sud. Ouais.
Bon, ça va. Donc t'es quand même sudiste de cœur d'adoption.
Voilà.
Ah, donc ça va. Bon, donc on est bien sur un live. ça va me suivre pendant très 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 longtemps, je le sais.
Alors. Alors, il y a quand même des aficionados qui écoutent cette émission et qui aiment parler technique. C'est quoi votre setup, en fait, là? On va se retrouver avec quoi? Alors, tout à l'heure, Paul, tu disais que tu avais mis quelques petites bécanes que tu aimais bien. Stéphane, Voltaire, Jules, vous jouez sur quoi?
Moi, je suis essentiellement sur Ableton Live, ouais. Avec des contrôleurs MIDI.
Mm-hmm. Moi, pareil, en fait.
Aussi.
Ouais. Ben disons que c'est vrai que pour cette première, qui est quand même une nouvelle formation avec que des titres inédits, à un moment donné, alors même si on se met en danger et que on est quand même au moins sur le matériel, obligé d'avoir une forme quand même de sécurité. C'est-à-dire que je pense que je crois qu'on a une heure et demie de set, ça va passer très vite. Et je pense que on doit se concentrer sur l'artistique et pas sur la technique
bien
à
sûr,
ce moment-là.
Tout à fait.
Donc, voilà, se dire ça tourne et on prend du plaisir et on est sur la musique en fait.
Mm-hmm. Paul, dis-nous un peu.
Ah ben moi j'aime bien me mettre un peu plus dans du.
J'ai débranché son câble.
Non, si tu lui enlèves le midi, il n'y a plus rien qui marche.
Mais ouais, non, c'est clair. C'est vrai que on va dire, oui, j'ai contrôleur avec Ableton qui tourne, mais en plus sur la carte son, j'ai branché en midi deux synthés.
Lesquels? On veut savoir.
Ben, petit fétiche, le Access Virus C.
Oui.
Et le SH1M est version boutique de Roland.
Ok.
Voilà, qui, pour moi, c'est des synthés qui me suivent depuis très très longtemps. Je suis à l'aise avec. Et d'ailleurs, on va dire 80% du son du live est sorti uniquement de ces machines-là. Après, il y avait
le SH plutôt pour les basses?
Non, pas forcément. Arpèges. Après, il y a certains sons que j'ai enregistrés parce qu'en fait, le synthé, je l'ai utilisé plusieurs fois.
Tu as fait de l'audio.
De l'audio, voilà, qui tourne, qui est en boucle dans Ableton. Mais il y a des parties MIDI qui jouent en live, en fait. Et du coup, moi, je peux jouer sur le filtre, sur la DSR, sur des effets en direct. Le synthé change de preset. À chaque fois, je change de boucle. Et ça, j'aime bien parce que c'est toujours en rapport avec la machine. Il y a de la vie, enfin, il y a toujours la vie, mais là, c'est vraiment, la machine, elle tourne à côté. Je peux vraiment la trafiquer.
Vous êtes là en train de préparer donc le set, vous avez fait les filages, c'est quoi la couleur principale, Voltaire, la couleur de ce set? C'est, si t'avais une couleur à dire, une couleur.
Oh, je sais pas, un bleu marine, un joli bleu marine.
D'accord,
ça vous
parle, on n'est pas sur du noir.
Non.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs couleurs en fait.
Oui, allez, vas-y, Paul, dis-nous.
Enfin, non, mais je trouve qu'il y a, il y a du sombre, il y a du clair. Bon,
j'imagine que c'est un voyage de toute façon que vous nous proposez.
Exactement.
Allez, violet, comme ça on a le rouge et le bleu mélangés.
Ah, ben voilà, violet, ben, c'est bien aussi.
Donc, sur une heure et demie en plus. Parce qu'il va durer une heure et demie votre live quand même.
Ouais. Ouais.
C'est, voilà. Ouais. Donc, évidemment, un voyage. Et au Machu Picchu. J'ai tout suivi.
Tom, tu nous rappelles quand est-ce qu'on pourra voir donc. Alors, c'est des versus, c'est ça c'est Scanix versus Voltaire versus Paul Nasca. Vous n'avez pas un nom
Global.
Non, un pseudo pour les trois, là, c'est des versus. C'est quel jour ?
Sur cela, on pourra le retrouver le samedi soir dans la première salle du Dièse à partir de minuit, il me semble. À partir de minuit. Voilà. Okay.
Toutes les infos sur ?
Toutes les infos, elles sont sur Instagram, Shotgun, j'imagine. Facebook, Shotgun, partout.
Sur partout, Facebook. Voilà.
Sur Facebook aussi.
Instagram. Oui, ça existe encore, Facebook. Oui, oui,
oui,
oui.
Mais bien sûr. Non, mais... Oui, bien sûr. Tu sais, il a mon âge, Facebook.
Ah, wow. Ok, donc on rappelle les dates, donc les 7, 8 et 9 aussi pour le festival dans sa globalité hein, sur le Techno Is Our Life. Est-ce qu'on s'écouterait pas un tout petit son avant de passer à vos actus à tous ? Une idée. Kiki, t'es chaud ?
Allez, non, c'est parti.
Oui.
Oui.
Oui, tu allez. Fais genre, non, c'est Raigo qui a le son.
Oui, oui, ben, c'est parti, vas-y.
Quel escroc. Alors j'ai un petit son, si vous voulez, ouais, c'est Arnaud Le Texier, Climax. Voilà, un petit son d'Arnaud Le Texier qui est parisien, me semble.
Qui vient d'Angleterre.
Oui.
Qui vient d'Angleterre, voilà, ok. Et voilà, ce morceau est très très lourd. J'avais découvert grâce à Valeribé d'ailleurs, que vous connaissez certainement beaucoup. Voilà, Arnaud Le Texier, Climax. We'll be right back. C'était Arnaud Le Texier, Climax.
Voilà, un petit son techno, voilà, hypnotique un petit peu, comme on aime. Voilà.
Et qui nous fait du coup une petite respiration par rapport à notre grande interview. Mais en même temps, vous êtes quatre autour de la table et c'est donc bien normal de prendre le temps avec tous nos guests. Je rappelle que vous êtes sur Rage dans Ouvre-Boîte, la 148e émission, une spéciale Techno is Our Life. Nous parlons bien sûr de ce grand festival qui arrive là. L'édition, elle est toute proche. C'est les 7, 8 et 9 février. Ce sera au Dièze. Et entre autres, parmi la trentaine d'artistes qui s'y produisent, nous avons la chance ce soir d'être avec Voltaire, Scanix, Paul Nasca et bien sûr Tom Peretto, créateur des soirées Techno is Our Life et aussi bien sûr DJ résident de ce même collectif. Alors nous allons parler un peu d'actualité maintenant, si vous le voulez bien, parce que vous avez tous aussi des projets en solo. On vient de parler de ce live qui va arriver sur la Techno is Our Life, mais vous avez des projets solo. On va prendre dans le sens de la table, si vous le voulez bien, juste là à ma gauche, Voltaire. Donc Voltaire, là tu travailles en ce moment sur un album qui va arriver justement cette année, mais il y a eu plusieurs belles sorties aussi en 2024. T'es assez actif.
J'essaye.
Ouais.
J'essaye tout à fait. Oui, j'ai mon premier album du coup qui va venir dans les mois suivants. On n'a pas encore annoncé la date, mais ça arrive, c'est vrai. Et on a déjà sorti un EP de 3 morceaux, dont 2 qui feront partie de l'album et un track exclusif en octobre pour annoncer le projet.
Alors quand tu dis on, qui est on avec toi?
Quand je dis on, je parle du label qui est derrière.
Ouais.
Qui est le label Code QR, le label français.
Oui.
Et j'ai aussi sorti un EP un peu plus tôt, je crois que c'était en septembre, sur Electronic Zoo, qui est le nouveau label de Marco Bailey, un label belge.
Oui, donc le track sur Electronic Zoo, c'est Horizon, que tu as sorti.
C'en est un, oui.
Et sur Code QR, on peut donc trouver aussi QRD.292.vol1.24. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il te plaît?
C'est le système de notation du label, en fait. Mm. Toute la DA du label est autour de la numérotation des codes. Et donc, du coup, voilà, il y a un code qui annonce cette EP.
Tu veux dire qu'ils ont une nomenclature bien spécifique en rapport avec l'univers du label, c'est ça?
Ouais, tout à fait. Tout à fait.
Oui, mais est-ce que justement, il y a une attribution particulière de lettres ou de chiffres par rapport à des projets?
Il y a un sens.
Ah,
il y a
voilà.
Un sens, tout à fait.
Et si on scanne la pochette, ça amène directement sur l'album ou pas avec le QR code ou...
Pas sur l'album, mais le QR code est fonctionnel. Okay. Ouais, tout à fait.
Okay. Ouais.
Est-ce qu'on peut avoir la signification, du coup, de... Non, mais oui, désolé, mais je
Tu es bien curieuse.
Mais bien sûr, le D.92.vol1.24, donc Voltaire.
Peut-être, vol 1.
Vol 1, c'est peut-être le vol 1 pour partir quelque part.
Mais tout à fait.
C'est des choses qui se disent pas, ça, généralement. Faut pas le dire, ça, c'est secret.
Oui, mais j'aime bien les exclus. Bon, d'accord, je l'aurais pas, j'ai compris, c'est pas grave. Donc, un album qui arrive avec un live.
Il n'y aura pas de nom de code sur l'album, par contre.
Ah.
C'est exclusivement pour les EP. Ouais.
Ah, t'as des noms normaux?
Oui.
Avec des vraies lettres.
Avec des mots, justement.
Il y aura des chiffres.
Pas de hiéroglyphes cette fois. Pas de
hiéroglyphes. Ok, ça va.
Est-ce qu'on peut en savoir justement un peu plus sur cet album? Vers quelle direction tu pars? Est-ce que tu peux nous en dévoiler un petit peu?
C'est un album qui est assez éclectique, qui résume un petit peu mon projet jusqu'à aujourd'hui, mais qui est teinté d'une couleur plus électronique, plus électro, moins techno, moins house. Comment dire, c'est une sorte de techno nostalgique des années 2000-2010 avec beaucoup de références. On peut retrouver des références à Daft Punk, à Kraftwerk, au label Institute, comme Marble, toute cette française et pas que. Doppler Effect, mais voilà, très dans la nostalgie, dans plus froid de ce que je fais aussi habituellement et pas toujours dansant.
Ok. Ah, et pas toujours dansant. Donc, il n'est pas destiné au dance floor.
Tu pars sur des univers un peu différents.
J'éclate un peu tout. D'accord. Parce que c'est ce que je voulais pour un album, en fait. Je voulais qu'un album raconte quelque chose de différent que des singles.
Donc, c'est un peu un album concept?
Pas forcément concept, mais c'est un album avec une vraie histoire, avec un sens, et qui accompagnera aussi un live pour défendre les couleurs de cet album. Tout à fait.
Okay.
Et le live, ce sera l'album, on ne sait pas la date.
Bientôt. Bientôt.
Tu risques peut-être.
Ah, toi aussi, t'as essayé.
Non, mais c'est pas ça. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu vas d'abord tester le live et après finir l'album.
L'album vient dans la première moitié de 2025. Du coup, ça va arriver. Et le live, on va commencer dès mars. Je sors de résidence. Ouais. Le live est prêt. Donc, il y a une première le 1er mars à Quimper et d'autres qui vont suivre qu'on va annoncer rapidement.
Donc, tu veux dire que le live, comme il va évoluer. Ça va être l'évolution de ce live qu'on va retrouver sur l'album après, sur les morceaux.
C'est plus les morceaux, certains morceaux de l'album et pas que, et d'autres morceaux déjà sortis mais redéclinés ou repensés pour entrer dans cette d'autres histoire de l'album qui va s'appeler Icos et qui seront déjà joués dès mars, donc il y aura pas mal d'exclusivité dedans.
Ok, ben on reste à l'écoute alors.
Oui.
Vivement qu'on l'écoute.
Oui. Il va falloir se maintenir au courant sur cette année 2025. Il y a énormément de choses, hein, bien sûr, qui va s'y passer. Donc là, nous avons eu les actualités de Voltaire. Passons à Scanix. Donc Scanix, dernièrement, il y a eu donc la réédition de deux projets à l'occasion donc des 25 ans du label de FCOM, ainsi que Time Machine qui est sorti en 2022 sur Attraction Records.
C'est un peu plus récent, je crois, Time Machine.
Laisse-moi vérifier. En attendant, je te pose quand même ma question. Qu'est-ce qui arrive pour 2025?
Alors déjà, j'en ai profité parce que je parle avec pas mal de monde quand je fais de la musique et là déjà les books que j'ai travaillé pour la soirée Techno Is Our Life, il y a peut-être déjà un label qui sera intéressé pour sortir. Mais je peux pas en dire plus parce que là c'est
Bon, il y a un projet en tout cas. Déjà.
Voilà. Et c'est vrai que je pense que Paul en parlait tout à l'heure. L'idée aussi, c'est dès qu'on fait de la musique, même pour un projet comme ça, c'est qu'elle voit le jour aussi sur des supports.
Ben oui.
Oui, c'est une matière qui n'est pas forcément à jeter, quoi.
Bien sûr.
Non, puis ça fait partie du partage aussi. Quand tu crées, c'est bien de faire du live pour partager sur l'instant T avec le public. C'est intéressant aussi de l'avoir après sur un support pour l'écouter à la maison.
En plus, alors ce qui est intéressant avec cette formule, c'est que En fait, moi, avant, j'utilisais un peu le live de cette manière. C'est-à-dire que je faisais d'abord de la musique pour le live, et quand ça me plaisait, j'enregistrais. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui se pratique. Donc, c'est assez sympa, je trouve, de retrouver un peu cette démarche. On teste.
C'est la question que je posais à Voltaire tout à l'heure. C'est s'il allait tester, en fait, ses titres avant de les sortir sur l'album.
On peut le faire en tant que DJ, mais là, en live, c'est vrai que ça donne une vérité, en fait.
Oui.
Voilà.
Alors, je viens de vérifier, c'est bien 2022 sur Spotify.
Bon, voilà, ça passe vite alors.
Time Machine, single, 2022.
Okay. Le temps passe vite.
Est-ce que tu veux aussi la date précise? On peut avoir la date précise, c'était le 27 mai.
D'accord.
27 mai 2022. Donc, nous avons cette jolie actu. Donc, en plus, je le sens que le trio que tu as formé, la Tempérito, il va y avoir vraiment de très jolies choses qui vont en découler. Il y a aussi une autre actualité que tu as, mais qui n'est pas du tout en France pour le coup, et qui est on peut la souligner quand même.
Oui, bien sûr. En fait, j'avais fait la musique pour Ghost in the Shell sur PlayStation 1 à l'époque, donc c'était en 97, qui a été vraiment un... Alors déjà, Ghost in the Shell, faut savoir que c'est énorme au Japon. C'est vraiment quelque chose qui est et donc à l'époque, j'avais fait la musique avec des gens comme Derrick May, il y avait Artfloor, il y avait CJ Boland, il y avait c'était et en fait c'était là ils voulaient le rééditer, je crois, donc pour l'anniversaire, et donc ils ont c'est ressorti en CD en septembre dernier au Japon, avec vraiment un objet qui est sublime. Je crois que j'ai jamais eu un CD aussi beau, avec vraiment quelque chose qui se déplie, avec des espèces de surimpression, avec des choses en transparence, etc. Alors c'est vrai que c'est un objet un peu de collection qui est vendu, je crois, pas loin de l'équivalent de 100 €. Et du coup, après, là, je crois que ce mois-ci, fin du mois ou début février, ils le sortent en vinyle, pour que ce soit peut-être plus accessible.
Et il va falloir se ruer dessus, du coup.
Je pense que ça va vite partir.
Ouais. Donc à tous les geeks qui nous écoutent, dépêchez-vous de mettre en favori là. Il y a pas de précommande, il y a pas de.
Je crois que ça doit se trouver sur Internet. Ouais.
Allez, laisse-moi chercher. qui pose une question, je cherche.
Je vais poser une question à Stéphane qui n'a rien à voir avec la musique. Est-ce que c'est possible? J'ai été surpris, Stéphane, de voir sur tes réseaux sociaux une photo dernièrement d'un grand cinéaste qui a disparu. Tu parles de David
Monsieur Lynch.
Lynch, ouais. Voilà. Moi, ça m'a touché parce que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et pas que ses films. Hein. C'était un grand artiste. Qu'est-ce que c'est pour toi?
Alors, c'est vrai que peut-être les gens ne le savent pas forcément, mais en fait, à l'origine, je me destinais à faire du cinéma. Donc, j'ai fait une école de cinéma et il se trouve que j'ai signé mon premier contrat d'artiste. J'étais en deuxième année, donc après, en troisième année, ça y est, je partais déjà sur la route
sur la
et c'était parti, voilà. Mais je suis vraiment un fan de cinéma, je regarde beaucoup de films. Alors, voilà, on peut dire un cinéphile, mais bon, j'aime pas forcément ce mot-là, c'est quoi un cinéphile, mais en tout cas, je regarde beaucoup de cinéma et Lynch, c'est quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie, en fait. C'est pas tous les artistes qui te suivent. Des fois, voilà.
Tu veux dire qu'il y a toujours un film qui correspond à un moment donné de ta vie?
Moi, j'ai connu, je crois, le premier que j'ai vu, c'était Elephant Man. Je sais pas, j'avais une 12 ans ou voilà, c'est un film qui m'a perturbant
peut-être à l'époque.
Ah mais c'est toujours ce que j'ai aimé chez Lynch, c'est-à-dire qu'on n'y va pas pour du confort, on y va pour
et puis il faut pas
pour être troublé, voilà.
Oui. Ouais. Il faut pas essayer peut-être de comprendre sur l'instant T, il faut le réfléchir après.
Et c'est surtout c'est quelque chose qui se vit. C'est pas une expérience qu'intellectuelle. C'est une expérience basée sur l'émotion et sur le ressenti. Donc c'est ça qui est très perturbant, parce qu'en fait, des fois, il y a des malaises ou des sensations, on ne sait pas les expliquer, mais en fait, il arrivait en fait à faire ça. Bon, ce qui est génial, c'est que voilà, son œuvre, elle survit et à lui.
Puis avec des films complètement à l'opposé, déroutants, on l'attend à un endroit, et en fait, il n'est pas à cet endroit-là, voilà. Il est à un autre. Et
c'est disons ça que Kubrick avec... Et aussi mon autre référence, mais Lynch et Kubrick, pour moi, voilà, c'est vraiment mes deux réalisateurs préférés, c'est sûr.
Bon, ben voilà, moi au moins je suis content d'avoir cette réponse, parce que c'est vrai que quand tu as posté cette photo, moi ça m'a touché, je l'ai vu passer, je me suis dit c'est cool.
Lynch, c'était quelqu'un qui mettait la musique au centre de son cinéma.
Tout à fait.
Et ça, pour moi, c'est la marque des grands réalisateurs.
Et pas que sur ses films, même, repasse à la série Twin Peaks.
Il avait des projets.
Twin Peaks, c'est... Tout le monde connaît, même Moby a repris les nappes de Twin Peaks, les deux accords connus, il en a fait un autre tube. Il a fait un tube avec, mais si je me rappelle bien de cette série, qui était complètement mais hors temps, franchement, il y avait l'atmosphère, il y avait les personnages, des grands acteurs qui étaient quand même dans ce film et dans la série, enfin... Voilà, moi c'est quelqu'un en tout cas qui, comme toi là, moi j'étais fasciné à chaque fois que je voyais un film.
Twin Peaks, j'avais acheté le coffret complet, à l'époque c'est de la VHS, on est en 91 je crois, et en fait j'ai commencé à mettre la première cassette.
T'as tout dévoré.
En 3 jours, j'ai pas dormi je crois, donc j'ai, c'était Lynch quoi.
Et même 25 ans plus tard, puisqu'il a sorti la saison 3, 25 ans après saison 2,
c'est vrai.
Soit en 2017, et on voit d'ailleurs dans la saison 2 une scène... où le personnage Laura Palmer dit « Je reviendrai dans 25 ans ». Effectivement, ils sont revenus 25 ans plus tard.
Oui.
Bon. Du Lynch.
Voilà, du Lynch.
Merci.
La boucle est bouclée.
Merci, David.
Ouais.
Et j'ai trouvé l'info.
Allez, vas-y, dis-nous.
Oui, donc Ghost in the Shell, Video Game Soundtrack Megatech Body.
C'est ça, ouais.
Il faut le dire, le titre. Ouais. 80€ pré-vente à la FNAC. Vous le recevrez le 30 juin. Donc, si vous cliquez maintenant, c'est le 30 juin. Il y a quand même 6 mois. Mais en même temps, normal. Hein. Mais voilà, il est encore disponible en précommande si vous voulez donc cette réédition et cet objet collector dont tu parlais.
Et c'est vrai que la pochette est magnifique. Hein. Franchement,
plein
de couleurs.
En fait, pour la petite anecdote, donc Raigo vient de voir la pochette et en fait, c'est un visuel provisoire.
Il tombe toujours à pic.
J'adore.
Toujours.
J'adore. Donc, nous avons ce Ghost in the Shell qui ressort la musique de la bande originale du jeu. Et une dernière actualité, Scanix, donc c'est les 10 ans d'Astropolis.
Exactement.
Et il va se passer quelque chose pour ces 10 ans.
Voilà, en fait, il y a eu pas mal de collabs et j'ai fait un titre avec Electric Rescue pour célébrer les 10 ans. Voilà.
Electric Rescue qu'on embrasse et qui cartonne notamment avec ce kilomètre 25 que là ils ont fait une DA incroyable sur Paris. Et on souhaite aussi d'ailleurs, j'en profite
pour faire
le coucou à notre chère Valérie B qui est tout content d'avoir ce nouveau lieu Miamao. Ouais. On lui souhaite énormément de réussite sur ce lieu qui va être lui aussi complètement ouf. Pardon. Petite parenthèse, mais bon. Voilà.
D'ailleurs, c'était l'inauguration il y a 15 jours.
C'est ça.
Il y a Laurent Garnier qui a fait l'ouverture d'ailleurs. Mm. Alors, j'ai pas eu des échos de la soirée, mais ça devait être grandiose en tout cas.
Mm. Ouais, ouais.
Un très beau lieu.
Ah, t'y étais, Voltaire ?
Ouais.
Oh là là, ça doit être fou. Ouais. Il faut qu'on y aille. Bon, il faut monter à Paris, mais ça vaut le détour. Donc, on ira vers Miamao. Et donc, les 10 ans d'Astropolis avec donc, ce track en featuring avec Electric Rescue. Il n'est pas sorti, on est bien d'accord, vous bossez encore dessus.
Ouais.
Ok.
Voilà.
Il sort quand ?
Je ne sais pas.
On ne sait pas. Allez, voilà.
On veut toujours les sorties, mais laisse-les les faire,
je les
ces
laisse,
tracks.
Mais d'accord, non mais je les laisse, c'est promis. Suivant.
C'est comme chez le docteur, ici. Non, on bien. Prend son ticket.
C'est super rigolo, j'adore. On passe à l'actualité de Paul Nasca. Paul, donc, tu as sorti récemment, en 2023 plus précisément, donc, le projet MBPN, donc comprenez Miss Barbara Paul Nasca, donc Miss Barbara avec qui tu as collaboré sur ce track, et le remix de Trafic du Toulousain Squall G, ça c'était en novembre dernier, et juste un tout petit peu avant, sur le label donc T1C7 de l'artiste Mod One, tu as remixé Saturne.
Tout à fait.
Ça c'est bon, on est
ouais,
bon.
C'est ça.
Donc là sur les derniers projets, notamment donc ces remixes, qu'est-ce que tu en retires ? Enfin, raconte-nous un peu là le ton parcours sur les dernières productions que tu as faites.
Ben si on revient sur le projet avec Mistress Barbara, ça a été un contact en fait par mail parce que je voulais lui envoyer des promos. Et en fait, son adresse n'était plus la bonne. Donc, je l'ai recontacté pour avoir une bonne adresse pour qu'elle reçoive les promos. Et en fait, on a discuté. Puis, de fil en aiguille, elle m'a dit, ben, je serai, parce qu'elle vit au Canada, elle m'a dit, je serai dans le sud de la France dans quelques mois. Quoi.
Non, trop bien.
Et bon, le sud de la France, c'est vaste, sauf que c'était à côté d'Orange. Et du coup, j'ai dit, ben, écoute, ça serait peut-être bien qu'on se voit ou qu'on se rencontre vraiment, parce qu'on... Artistiquement, on se connaissait, mais on s'était jamais vraiment croisé, quoi, ni rencontré. Et en fait, ça l'a tellement fait que, on a mangé ensemble et puis il restait 3-4 heures.
On se dit, pourquoi pas?
J'ai allumé le track. J'ai allumé le studio et puis c'est parti de là. On a fait une boucle. On en a démarré une seconde, mais elle a dû partir. Et en fait, elle est repartie chez elle au Canada. Et en fait, on a continué le projet à distance, c'est-à-dire moi, je lui ai envoyé le projet, elle l'a travaillé, elle me l'a renvoyé, on a fait un genre de ping-pong, en fait. Et c'est allé super vite. C'est une fille très, très dynamique, très efficace, et elle prend des décisions assez radicales, mais c'est pour du bon, quoi. Elle ne traîne pas, quoi, dans ce qu'elle... Dans
il
n'y
a pas
choix.
Le time.
Voilà, moi, j'ai des fois tendance un peu à traîner ou à me dire, à pas savoir, pas vraiment me décider, me dire je garde, elle non, hop, on fait ça, et c'est allé super vite, et du coup on a eu ces morceaux-là qu'on a mis de côté, et en fait elle m'a dit, si tu veux, on commence à démarcher pour les sortir, et après elle m'a dit, au final, pourquoi pas les sortir sur mon label, Eternum, et en fait c'est ce qu'on a fait, et c'est un EP qui a super bien marché lors de sa sortie. Et d'ailleurs, on a eu Carl Cox qui l'a intégré dans son live hybride l'année dernière. Et ça nous a fait vraiment plaisir. Et là, il a ressorti un autre morceau, je crois. Il a réintégré dedans il y a quelques mois. Et du coup, ça nous a fait une belle visibilité.
Ah ben ouais, intégré par dans les sets de Carl Cox, oui.
Oui. Et puis c'est son live.
Voilà, belle reconnaissance.
Mais surtout, en plus, c'est son projet live hybride. C'est-à-dire qu'il intègre des boucles, des samples, des boîtes à rythme. Enfin voilà, ça change un peu de ses sets habituels, un simple DJ, quoi.
Ouais.
Et du coup, il a réédité un peu notre version. Il a un peu retouché. Il rajoute des éléments dessus. Donc, pour moi, c'est encore plus intéressant, quoi, que plus que
simple... On pourra peut-être l'écouter parce que Carl Cox est cet été sur le Family Picnic, sur le live, avec le live hybride. Peut-être qu'il sera.
Ben, il avait joué dans sur le... oui, Family Picnic l'année dernière. Mmh. On avait une belle captation d'ailleurs à ce moment-là. Mmh. Et du coup, ben, en fait, bon, on était pas mal pris avec nos projets respectifs. Et là, avec Barbara, on va retravailler sur un projet ensemble. Ouais.
Je reviens deux minutes sur Barbara. On parlait il y a 30 secondes de Mia Mao. Mm. En fait, elle est résidente sur ce club, sur les soirées Terpsichore, je crois.
Ouais, hein, je crois que c'est ça. Ouais. Oui. Ça va être un concept de soirée, je crois, qu'ils vont faire. Ils sont quatre résidents, dont Dave Clark... Mistress Barbara.
Je crois que la première, c'est avec Sam Paganini ou quelque chose comme ça.
Manuel Malin, exactement. Oui. Et un quatrième que j'ai perdu le nom. Ouais.
Ah, je vais te le dire.
Non, je cherche.
Non, c'est Eli Akula.
Oui. C'est ça. Oui. C'est ça, exactement.
Rapide.
Hein. Bon. Et Koboyo aussi. Je crois qu'il y a Koboyo aussi.
Et voilà, c'est ça. C'est ça.
Ah, donc Koboyo aussi. Ils sont cinq, donc.
Et sur la prochaine, ils reçoivent Len Faki. Voilà. Comme ça.
On sait tout. Moi, je veux revenir un peu sur la bromance, du coup, allez. Mistress Barbara et Paul Nasca. Donc, le Sud a créé, a fait naître ce début de projet qui s'est transformé donc en projet qui est sorti là donc en septembre dernier. Il va y avoir donc une suite. Moi, j'adore. C'est une trop belle histoire, je trouve.
Oui, il va y avoir une suite parce qu'on s'entend super bien. Et puis voilà, ça. Je trouve qu'on se complète bien, quoi. Mmh. Sur certains points, voilà, je suis assez hésitant, elle tranche, et sur d'autres points, je peux aussi bien l'aider. Et en fait, c'est...
Ouais, vous vous complétez.
Ouais, on se complète. Mmh. Et pareil, voilà, il n'y a pas d'histoire... On fait 50-50, voilà. Il y a vraiment un travail qui est... voilà, je partage, je te renvoie, j'ai fait ça, non, ça me plaît pas. Mais ça va super vite, en fait. Et du coup...
Donc, voilà, il va y avoir du neuf qui va arriver... Bon, je demande pas de date, j'ai bien compris.
Moi, c'est pas mieux. Mais j'espère qu'on va, je pense d'ici, fin février, je pense qu'on va rebosser sur des projets.
Ok.
Et voilà quoi. Du coup, ça me fait plaisir. Et après, pour les autres, les remixes, ben c'est l'Ostra Club à Nancy où voilà, c'est des amis, Charlène et Manu, qui ont un label techno et qui m'ont proposé de remixer un artiste qui s'appelle Mod One. Le track s'appelle Saturne. Et voilà, quoi. J'aime bien ce qui sort sur ce label.
Oui, d'ailleurs, c'est celui-ci qui est sorti en septembre. En fait,
voilà, il est sorti en septembre.
Le 25, c'est ça. Et avec Mistress Barbara, c'était en novembre.
Non, c'était l'année d'avant.
Il va falloir retravailler, là, oublie.
Squalgy au mois de novembre.
Ah, pourtant, il y a des dates.
Oui, Squalgy. Tu sais, le Toulousain.
Le Toulousain.
Elle boude. Oui. Elle a capté que oui.
Et on ne le coupera pas.
Non.
Ok. Je m'incline, pardon.
J'ai une petite question à poser à Paul. Scandium, on en parle un peu ?
Et oui, Scandium, ouais.
Non, je pense que c'est
fini. C'est la boucle est bouclée, on a fait le tour.
Ouais, on a fait le tour. On a Memory, on l'a sorti sur vinyle, sur le label. Donc ça a bien fait reprendre l'histoire. Enfin, mais c'était en interne, c'était assez complexe de s'accorder à nouveau.
Mais c'est une belle histoire quand même, Scandium.
C'est une très très belle histoire. Qu'on voulait pas. Enfin, c'est vrai que c'était difficile de garder un label. On a démarré en 2000.
Ouais.
Donc ça faisait.
24.
Voilà.
Mais, enfin, c'est ça, on blime.
Et non, 25 maintenant.
On a arrêté avant, donc ça faisait quasiment 20 ans. Et je pense que c'était la meilleure des décisions parce que c'est difficile de. Voilà. Soit on le fait à fond.
En tout cas, c'est un label qui reste dans la mémoire. C'est un label qui a compté dans la musique électronique.
Je pense, oui, à notre niveau. On a fait ce qu'on a pu, mais on a essayé de vraiment bien le faire, de faire découvrir plein d'artistes, nous, de nous développer, de développer des soirées. On a quand même bien profité de ces moments. Mais après, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi... voilà, arrêter, passer à autre chose.
Oui. C'est l'évolution de la vie.
Voilà, tout à fait. Bien que Memory est vraiment bien relancé.
C'est bien, ça termine sur une bonne note.
Voilà, ouais, tout à fait.
Donc c'est bien ça.
Donc voilà, mais sinon Scandium, je pense que c'est...
En tout cas, c'est dans la mémoire collective maintenant, oui. Scandium, ça c'est clair. Et tu as fait partie de cette belle aventure et merci de nous avoir donné tous ces titres. On peut parler d'André Dalcan et de tous les autres. Voilà, de tous les autres qui ont participé. Hein,
ouais, et puis, je remercierai jamais assez Oxia qui nous avait remixé le 01, le tout premier. Mm-hmm. Kiko, les Grenoblois, mm-hmm. Des gens super qui nous ont vraiment, vraiment aidés à tous les niveaux pour la distribution, pour les débuts du label. Et c'est vrai que je les remercierai jamais assez pour. Pour leur soutien
tout
et tout à fait.
Pour toute l'histoire. Une histoire quand même de 24, bientôt 25 ans, du coup, 2025.
Oh, elle avait les dates ce soir.
J'ai envie. Bon. Donc, nous avons ce projet avec Mistress Barbara qui va donc suivre son cours. Une autre actu?
Comme disait Stéphane tout à l'heure, je pense que les boucles là qui ont été travaillées par rapport au live...
Il y aura une suite.
Je pense que voilà.
À suivre sur.
Je suis vraiment content de ces boucles et de. Je me sens à l'aise avec. Et je pense que après, je ferai des constructions et je les terminerai, je les proposerai. Je verrai suivant les labels. Je peux pas donner de date.
Tu la frustres, Paul. Elle veut des dates.
Je dis plus rien.
Mais ouais, ça me botte bien.
Ouais.
Après, il y a un projet que j'arrête pas de repousser depuis pas mal d'années maintenant, c'est l'album. Là, ça y est, je l'ai bouclé et quasiment. D'ailleurs, avec Jules, je pense qu'on va, Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que si on s'avance un peu par rapport à ce projet de live, on va travailler.
Un truc là, ouais, ça va être fort là.
Un track ensemble pour voilà parce que.
Ne demande pas de date.
J'ai compris, c'est bon.
Et voilà, donc c'est des petits trucs qui vont faire que le label, l'album va
éclore.
J'ai démarché sur quelques labels, j'attends les retours.
Ah, il est fini.
Il est fini, on va dire, à 90%. Je peux déjà le proposer, avoir même des avis. Là, ça y est.
Super.
Mais voilà, ça, c'est un label. Album.
Moi, je tiens aux dates, toi, tu tiens au label, tu vois.
C'est un album qui me correspond, je trouve. J'en ai fait qu'un à ma vie. J'ai fait beaucoup de EP, beaucoup de remix. J'ai du mal à être satisfait d'un projet d'album complet. Et celui-là, je suis très satisfait.
Alors lui, du coup, ça va être Pépite de chez Pépite.
Je sais pas. Après, c'est assez large. C'est pas forcément justement les albums. C'est pour sortir de sa zone de confort, quoi. Moi, je suis habitué à faire du dance floor, des choses assez efficaces. Et l'album, il y a 2-3 tracks assez efficaces, mais il faut que ça soit... Faut surprendre, en fait. Pour moi, l'album, c'est des choses où je prends des risques. Ça peut peut-être être... Les gens ne vont pas forcément comprendre ce qu'ils vont écouter, mais c'est le but aussi.
Okay.
Pour moi, de proposer autre chose.
Ouais, c'est une autre facette de ta personnalité musicale.
Tout à fait, oui. Des idées, des moments. Il faut s'exprimer. À ce moment-là, ça a donné ça. Mais c'est, y a des morceaux, non ? C'est pas du tout dancefloor ni techno. Ça peut pas vraiment se jouer. Et je trouve que c'est important sur un projet d'album. Si c'est pour enchaîner 10-12 morceaux dancefloor au même tempo quasiment, je vois pas l'intérêt. Donc c'est pour ça que je préfère faire du EP. Du remix où ça je suis assez à l'aise. L'album, il faut vraiment que je sois vraiment vraiment OK sur l'ensemble et sinon je c'est pour ça que depuis pas mal d'années je le repousse et mais là
d'ailleurs tu nous en avais parlé je me rappelle quand tu étais venu dans Ouvre-boîte je sais plus la combientième c'était mais du coup tu reviendras
à 3514
On en a la 148, Kiki.
Ah bon, excuse-moi.
Tu reviendras du coup dès qu'il
a... Elle aime les chiffres.
Mais oui, j'adore ça.
J'espère
même si je me plante des fois.
Alors, j'ai une question secrète. On n'en parle pas. Ça reviendra un jour.
Les soirées secrètes.
Ouais. Ah, les soirées secrètes. Oh là là.
Parce que ça, quand même, c'était des moments succulents, franchement.
Ben oui, ouais, c'est fou parce que ces soirées ont vraiment marqué les esprits. Après, c'est pas terminé, mais il faut que je trouve, il faut que je me réorganise.
Tu n'auras pas la date.
J'aurai pas, après, on était trois sur le projet. Maintenant, il y a une personne qui s'est retirée. Et il m'a fallu du temps, en fait. Voilà, j'ai préféré laisser poser le projet.
Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, hop, ça peut éclore à nouveau.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ouais, ouais. Bah ça sera
dans le même esprit,
très bonne chose.
Peut-être pas le même nom, bien sûr.
Non, peu importe, ça c'est pas trop grave. C'est l'esprit surtout qui était intéressant.
L'esprit, le ou les lieux, je pense que ce sera dans la même...
La même veine.
Ouais, la même veine.
Vivement.
Et puis voilà, limiter, pareil, la capacité, rester sur des jauges. Et d'ailleurs, c'était le début de ce projet en 2010, c'était ça. C'était vraiment de se dire, voilà, tout part en excès, les grosses soirées. Et nous, c'était justement de se dire, bon, on propose quelque chose de...
Le plus petit, mais plus intimiste, et du coup...
Voilà, local, et, ouais. Et avec des locaux qui viennent aussi. Et les gens nous ont fait confiance dès le début. Et ce qui
la proposition était, était top, en fait.
En fait, de rien annoncer, c'est ce qui marque, en fait.
Bien sûr.
Il y a des lieux qu'on a réussi à avoir un peu au dernier moment, qu'on a annoncé au dernier moment. Les artistes qu'on annonce plus du tout. Les gens arrivent et découvrent les DJ ou les lives qui vont jouer sur le moment, mais en fait ils viennent parce que voilà, ils savent que c'est voilà, hyper qualitatif, on a tout bien cadré.
C'est pour ça qu'il faut pas que ça, il faut pas arrêter. Non, s'il
il faut
plaît.
Pas arrêter, mais il faut pas aussi comment dire,
il faut pas en faire un business.
Il faut pas en faire un business, tout à fait.
Oui, oui.
On pourrait grossir.
Non, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est encore une fois la qualité, la bonne musique,
voilà.
Et puis sortir des codes.
Exactement. On reste entre 2 et 300 personnes.
On ne prend pas le téléphone, par exemple. Ça serait peut-être...
En fait, on impose rien, mais quand moi, je revois les vidéos ou je repense à des moments, je vois que les gens dansent, échangent entre eux. Il y a très peu de...
Ça existe encore, mon Dieu.
Il y en a toujours quelques-uns, mais...
Quel paradis.
En fait, le lieu est tellement unique et l'ambiance est... je pense qu'ils veulent vraiment profiter. Ils arrivent très tôt, d'ailleurs. Et beaucoup restent jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça aussi la magie de cette soirée, et on veut garder cet esprit-là,
cette âme.
Ouais.
Donc on va checker de très près.
Si tu veux, on sera les premiers à l'annoncer la prochaine, si tu veux bien.
Sûr. Dès qu'on aura la date.
Oui, mais il nous la donnera.
Et oui, évidemment. Donc on va checker de très près. Donc la secrète, oui ou non, l'album. Alors, surtout.
Ouais.
Et bien sûr ces projets avec Mistress Barbara qui vont perdurer.
Après, il y aura aussi, pareil, le live m'a remotivé aussi à monter un live solo. Alors ça, pareil, ça se fera, ça se fera pas. Mais là, en tout cas, j'ai envie, ça m'a motivé à remonter. Et justement, vu que l'album est quand même là en proposition, peut-être que ça peut être aussi un moment où je
peux
envoyer l'album et travailler le live derrière par rapport à ce projet. Mais là, c'est encore un peu flou, quoi.
Il n'y a pas de date.
Non.
Oui.
Non, puis il n'y a pas de retour. Il n'y a pas vraiment de label encore précis. J'ai pas eu de retour, honnêtement, pour l'instant. En fait, j'envoie, j'attends quelques temps. Je relance et après, j'essaie.
Mais tu viendras nous en parler de toute façon. Là, dès que ça se profile, tu reviens nous en parler.
Ça sera avec grand plaisir.
Ah, génial.
Ouais.
Trop bien. Trop bien.
Super.